premier sur l'info. L'info locale avec Royalty Home Center, votre nouvelle marque d'électroménager Nedec à Tipperary.
Votre journal de 7h30, les titres présentés par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Démonstration de l'armée française dans le ciel polynésien. Radio 1 était présent pour vous. Nouvelle augmentation des prix à la pompe. Et enfin, déchetterie, incinérateur. Fenouama attend la feuille de route du pays.
Et on débute ce journal en parlant d'aviation. Rafale, ravitailleur, l'armée de l'air s'entraîne pour intervenir dans le Pacifique à tout moment.
Baléante altitude entre Porapora et Rangiroa hier après-midi. Les trois avions Rafale arrivés à Tahiti lundi dans le cadre de la mission IFARA s'exerçaient aux manœuvres de ravitaillement en vol grâce à la 330 Phoenix. La rencontre avec donc l'équipage de ce tanker polyvalent grâce auquel l'armée peut pouvoir déployer une flotte de chasseurs-bombardiers en moins de 48 heures dans la région. Écoutez le major Pierrick, chef des Haro.
L'objectif principal, c'est de montrer à nos amis polynésiens qu'on est là pour eux, hein, on est là pour les protéger. Quoi qu'il se passe, on saura être là. La deuxième chose, c'est aussi pour montrer que la France est en capacité d'avoir une vision de ce qui se passe dans la région Indo-Pacifique par ses propres moyens. Hein, elle n'est pas obligée de passer par d'autres nations. Un des autres objectifs aussi, c'est de montrer à nos alliés principaux qui sont dans la région, que sont l'Australie, les États-Unis et puis l'Inde, que si jamais un jour ils ont besoin qu'on les appuie pour stabiliser la région, la France est en capacité de se déployer dans des délais tout à fait raisonnables compte tenu de la situation tactique pour venir les épauler.
Si la 330 Phoenix est un concentré de technologie, c'est bien la dextérité des pilotes qui assure la réussite de telles opérations. Écoutez le commandant Charles, commandant de bord du Phoenix et chef des opérations de l'escadron Bretagne.
C'est une phase assez sensible et délicate qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de surveillance également pour éviter tout incident avec les receveurs. Dans cette phase de ravitaillement en vol, notre but c'est d'être le plus stable possible, d'éviter les zones de turbulence pour que les paniers de ravitaillement soient le plus stable possible. La difficulté elle est surtout pour le receveur derrière, parce que nous voulions tout à l'heure à une altitude de 4200 mètres, à une vitesse de 520 km/h, et c'est au chasseur vraiment, par son pilotage très fin, d'aller mettre sa perche dans le panier de ravitaillement en vol.
Si la 330 MRTT Phoenix est aujourd'hui l'avion ravitailleur le plus emblématique de l'armée de l'air, elle n'en opère pour l'instant que 4 dans l'attente de plusieurs autres livraisons d'Airbus dans les prochaines années.
Et comme c'est de la radio, vous n'avez pas l'image, je vous invite à nous faire un petit tour du côté du site www.radio1.pf. Découvrez un petit peu l'article de Charlie René, vous allez voir une photo magnifique qu'il a pris lui-même d'un Rafale justement en plein ravitaillement. On continue à parler des carburants avec le prix qui augmentera au 1er juillet.
Cette revalorisation s'inscrit d'après le gouvernement dans un contexte de maintien des tendances haussières des cours. Au 1er juillet, le prix du litre d'essence sans plomb de gazole d'essence augmentera de 5 francs, de même que le kilo de gaz. À noter que les cours du pétrole ont beaucoup varié depuis le début de la crise sanitaire. Après un effondrement lors du confinement, le prix du baril brut n'a cessé de remonter.
Et on parle environnement, déchetterie, incinérateur. Fenouama attend la feuille de route du pays.
La Chambre territoriale des comptes a publié son rapport sur la gestion de Fenouama concernant les exercices 2012 et suivants. Il manque clairement un cap fixé par le pays concernant la gestion des déchets pour que le syndicat puisse choisir le sien et investir en conséquence. D'autant que le traitement des déchets est un enjeu majeur pour les prochaines années. Écoutez le responsable de Fenouama.
Il a été mis en stand-by parce que derrière, nous manquait le cadre global proposé par les autorités, par la Polynésie française, sur la politique sectorielle des déchets. Aujourd'hui, des travaux sont grandement engagés par la Polynésie française et en fonction de ce qui sera dit, on pourra nous ressortir de nos cartons et adapter surtout notre schéma directeur aux objectifs souhaités par le pays. Tous ces programmes de développement coûtent beaucoup d'argent. On parle des fois d'investissements qui peuvent varier de 1 à 2 milliards jusqu'à une quinzaine de milliards. C'est grâce à cette politique, en justifiant que ces investissements correspondent à un souhait, à une orientation politique, qu'on va pouvoir aussi bénéficier d'aides financières bien supérieures, quoi.
Le schéma territorial de prévention des déchets à l'échelle de la Polynésie doit justement être finalisé au second trimestre 2021. Mais toute la difficulté pour le gouvernement est d'adapter la stratégie en fonction des besoins des îles.
C'est toute la Polynésie française qu'il faut traiter, hein, qu'il faut orienter. Donc on peut ne pas avoir les mêmes objectifs, j'imagine, hein, entre les îles éloignées et une île très urbanisée comme les Tahiti avec plus de population. Il peut y avoir aussi des différences quand on est sur une île très très touristique comme Bora Bora. Je pense que cette politique permettra à chaque collectivité d'y voir plus clair sur les choix, les ambitions. Par exemple, un élément tout simple, c'est si nous transformons les déchets en énergie, quel est le coût de rachat garanti du kilowattheure produit par ces déchets? Voilà. L'objectif de cette politique, c'est de définir un coût comme l'est aujourd'hui l'hydraulique ou le solaire.
À noter que la mise en place de 6 déchetteries, 2 existantes, 4 à réaliser dans celle de la Punaru, qui devrait ouvrir en juin 2022, et 10 mini-déchetteries sur Tahiti Morea, a été proposée au Conseil des ministres.
Une magnifique initiative à présent, Eat Me, pour ne plus jeter les invendus alimentaires.
Elina Simon, sommelière, et Jérémy Van der Ayoten, diplômés d'un master en commerce international, viennent de lancer Eat Me. La plateforme permet aux commerçants de proposer leurs invendus alimentaires et aux particuliers d'acheter à petit prix. Alors comment ça marche? Écoutez Jérémy, l'un des fondateurs de la plateforme.
Eat Me a été pensé comme la solution simple du quotidien pour que chacun puisse s'engager à son échelle contre le gaspillage alimentaire. Donc, qu'on soit commerçant ou utilisateur, tous les invendus alimentaires qu'un commerçant peut avoir, donc en boulangerie, pâtisserie, grande surface ou industrielle, et également restaurateur, nous on met en relation avec les utilisateurs sur notre site internet Eat Me, donc sous forme de panier surprise. Donc, on permet de revaloriser chaque aliment. Le client pourra ensuite acheter son panier surprise sur le site. Il pourra ensuite aller le récupérer donc chez le commerçant durant des heures de collecte.
L'acheteur fait des économies et évite à des produits de se retrouver à la poubelle. Selon l'ADEME, 40 tonnes de nourriture sont jetées chaque seconde dans le monde, soit un tiers de la production mondiale. Le fondateur espère que la plateforme pourra évoluer justement et faire évaluer le phénomène aux Fénois.
C'est vrai qu'en Polynésie, on n'a pas encore de chiffres sur le gaspillage alimentaire et on souhaite vraiment apporter notre aide sur les statistiques avec nos ventes, de pouvoir apporter des chiffres sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage vient aussi de chaque personne, donc à la maison, donc dans le frigo, des aliments vont arriver à date de péremption, donc au final on va les jeter sans les consommer. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi du gaspillage dans tout commerce, dans le monde en général. Cela représente un tiers de la nourriture que l'on produit qui est jetée.
Disponible à Tahiti et sur la presqu'île, Eat Me devrait également être développé à Morea, Waïné et Raiatea.
Et oui, le chiffre à retenir, du coup, ça fait froid dans le dos. Hein. Un tiers de la production mondiale finit à la poubelle. Tahiti, Tiamai, ça commence dans 6 jours, Wallis.
Du 29 au 10 juillet, Toata va retrouver les fidèles artistes du Heiva pour un hommage à Coco Hotaota, qui est décédé l'an dernier. Sa troupe Temaeva a été reprise par Cathy Puchon, première adjointe à la mairie de Punavia. Écoutez-le au micro de Marobiri.
L'année prochaine, on fêtera les 60 ans d'existence de Temaeva. C'est tout un honneur de représenter, de faire honneur à Coco. J'ai fait appel aux anciens de Temaeva, notamment dans l'écriture, parce que ça a toujours été Coco qui faisait tout, nos écrits, les chorégraphies. Ça fait comme quelque chose de revenir sur scène. On s'est bien préparé, tout le monde a mis du sien pour pouvoir représenter un très beau spectacle pour ce festival.
Le spectacle promet d'être émouvant et oui, les artistes se sont adaptés à la crise pour nous offrir le meilleur d'eux-mêmes. Nous retrouverons également les troupes de Himine, dont Reo Papara, dirigé par Mike Tessier.
Généralement, on frôle les 100 personnes. Là, nous sommes à peine à 45, voire 50. À un moment donné, on ne pouvait plus, on était obligé de retirer les masques, de prendre un peu de distance chacun. Vu que ce n'est pas un concours, vu qu'il n'y a pas de règlement, donc on s'était dit qu'on allait avoir un peu de liberté et se permettre de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au Heiva. Mais le problème, c'est que on ne se retrouve pas avec l'effectif espéré, donc ceux sur qui on comptait pour pouvoir faire des très belles choses, ils sont pas là. Tant pis pour eux, on fera avec les éléments qui sont disponibles.
Toutes les informations sont sur le site de la Maison de la Culture et de Radio 1. Voilà pour ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi.